إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture et l'étude du chapitre de la purification tiré du livre Manhaj al-Salikin du Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre du Tayammum, qui est généralement traduit par les ablutions sèches. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le fait que l'on se purifie pour accomplir la prière. Et on doit se purifier pour celle-ci des deux états d'impureté, majeur et mineur, et ce avec de l'eau, comme on l'a vu dans les cours précédents au sujet des règles des ablutions et des règles du rousl, le grand lavage. Et l'obligation pour la purification est qu'elle ait lieu avec de l'eau, tant que cela est possible. Mais il se peut que dans certaines situations, on ne puisse pas utiliser l'eau pour la purification, soit car l'eau n'est pas présente, ou alors qu'elle soit présente, mais que l'on ne puisse pas l'utiliser en raison de divers empêchements, comme on va le mentionner dans ce cours, Inch'Allah ta'ala. Et dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, a légiféré pour nous une manière de se purifier, même en l'absence d'eau ou en l'incapacité d'utiliser l'eau. Et cette purification, c'est ce que l'on appelle le tayammum, les ablutions sèches, qui est le sujet du cours d'aujourd'hui et qui fait partie des particularités de la communauté de l'islam, comme on va le voir dans le hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné. Et le tayammum, qu'est-ce qu'il signifie? On a dit que cela se traduisait par les ablutions sèches, et ce en raison qu'elles se font sans eau. Mais dans la terminologie religieuse, elle est définie comme étant le fait de vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant recours à la terre pure et en s'essuyant avec celle-ci le visage et les deux mains. On verra ce qui est visé par la terre pure, Inch'Allah ta'ala. Et le tayammum, il est permis d'après les preuves du Qur'an et de la Sunna, ainsi que l'unanimité des gens de science. Concernant les preuves du Qur'an, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 6 de Surat al-Ma'idah, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala « فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ » Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours à la terre pure et essuyez avec celle-ci vos visages et vos mains. Quant aux preuves de la sunna, elles sont très nombreuses et on va voir dans ce cours, Inch'Allah ta'ala, différents hadiths à ce sujet. Et comme on a dit, la communauté est unanime quant à la permission du tayammum, et ce, d'un point de vue général, c'est-à-dire qu'il se peut que sur certaines questions et sur certains détails, les savants divergent, mais d'un point de vue général, ils sont tous unanimes quant à la légitimité du tayammum. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit donc ici « وَهُوَ النَّوْعُ الثَّانِ مِنَ الطَّهَارَةِ » et c'est la deuxième sorte de purification. Si vous vous souvenez, dans le premier cours, on avait mentionné que la purification, elle était de deux sortes. La purification avec de l'eau et la purification avec la terre. Donc la purification avec l'eau, on l'a vu dans les chapitres précédents au sujet des ablutions et du roussel. Et on va voir maintenant, Inch'Allah ta'ala, le deuxième type, la deuxième sorte de purification qui est la purification avec de la terre. Il dit, rahimahullah, وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الْمَاءِ et il remplace l'eau. La purification avec la terre, le tayammum, il va remplacer la purification avec l'eau. En effet, comme on le voit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا » et si vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours à la terre pure. C'est-à-dire qu'en l'absence d'eau ou en l'incapacité d'utiliser l'eau, alors le tayammum va remplacer la purification avec l'eau. Et lorsqu'on dit que le tayammum remplace la purification avec l'eau, c'est-à-dire que son jugement est le même que le jugement de la purification avec l'eau. C'est-à-dire qu'il lève l'état d'impureté de la même manière que l'eau lève l'état d'impureté. Également, il n'est pas conditionné pour faire le tayammum d'attendre l'entrée du temps de prière, de la même manière que cela n'est pas conditionné lors de la purification avec l'eau. Également, le tayammum, il n'est pas annulé à la sortie du temps de prière, de la même manière que lorsque le temps de prière sort, la purification avec l'eau n'est pas annulée. Et également, si tu fais le tayammum pour accomplir par exemple une prière surérogatoire, alors tu pourras, avec ce tayammum, accomplir la prière obligatoire qui viendra si le tayammum t'a encore permis à ce moment-là. Le shir rahimahullah ta'ala dit donc « وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الْمَاءِ إِذَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ لِأَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ » Il dit « Il remplace l'eau lorsque l'homme ne peut pas utiliser l'eau pour les membres de sa purification ou certains d'entre eux. En raison de son absence, c'est-à-dire en raison de l'absence d'eau, ou alors en raison de la peur d'une nuisance suite à son utilisation. La preuve concernant la légitimité du tayammum en l'absence d'eau, c'est ce que l'on a mentionné précédemment dans le verset, mais également le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Imran ibn Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vit un homme isolé et qui n'avait pas prié avec le groupe. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a interpellé et lui a demandé qu'est-ce qui l'avait empêché de prier avec le groupe. Alors cet homme répondit, « Ô messager d'Allah, je suis en état de janaba et il n'y a pas d'eau. » Il ne pouvait pas faire le ghusl. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Aie recours à la terre, cela est suffisant. » On voit donc que le tayammum, il remplace la purification avec l'eau en l'absence de celle-ci, que ce soit pour l'état d'impureté mineure ou pour l'état d'impureté majeure. Et le shir, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné ici deux motifs nous permettant d'avoir recours au tayammum. Le premier motif, c'est qu'il n'y ait pas d'eau. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau et que la personne peut l'utiliser, alors il ne lui est pas permis de faire le tayammum. De la même manière, s'il n'y a pas d'eau, mais que tu peux en trouver. Par exemple, il t'est possible d'avancer sur ton chemin et de t'arrêter dans une aire de repos où tu trouveras de l'eau, ou alors dans un endroit où tu pourras même acheter de l'eau. Car si l'eau est présente et que le seul moyen de l'obtenir est de l'acheter, et que tu as les capacités de l'acheter, alors il est obligatoire pour toi d'acheter cette eau afin de te purifier avec celle-ci, et non pas d'avoir directement recours au tayammum. Et ceci c'est très important, car il y a certaines personnes qui sont négligentes lorsqu'elles sont en voyage ou en déplacement, et qui ont rapidement recours au tayammum sans même faire les causes leur permettant de se purifier avec l'eau. C'est pour cela que les savants ont dit qu'il est nécessaire pour la personne de rechercher l'eau afin de se purifier. Sauf si elle est sûre de ne pas pouvoir en trouver. Si tu es sûr de ne pas pouvoir trouver l'eau, alors dans ce cas, il n'y a pas de gêne à recourir directement au tayammum. Mais si tu penses pouvoir en trouver, que tu penses pouvoir trouver une salle d'eau, ou que tu penses pouvoir trouver un magasin vendant de l'eau, et que tu as la possibilité de l'acheter, alors ceci est une obligation. Gens de science ont dit la preuve à ce sujet, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً » et que vous ne trouviez pas d'eau. Ils ont donc dit le fait de ne pas trouver, cela a lieu après la recherche. Il est donc nécessaire de faire les causes pour pouvoir obtenir de l'eau afin de faire les ablutions. Et le mieux lorsqu'on voyage, lorsqu'on se déplace, est de transporter de l'eau avec nous, surtout que cela est simplifié aujourd'hui, notamment lorsque la personne voyage en voiture par exemple. Il n'y a pas de gêne à transporter une bouteille d'eau avec soi afin de pouvoir se purifier. Et c'est ce que faisaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum lors de leur voyage. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils voyageaient, à dos de chameau, malgré cela, ils transportaient de l'eau pour leur purification et pour la consommation. Le deuxième motif qu'il a mentionné, rahimahullah ta'ala, c'est la peur d'une nuisance suite à son utilisation. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle est malade. Et si elle fait les ablutions ou le roussel avec de l'eau, alors ceci va aggraver sa maladie, ou bien retarder sa guérison. Dans ce cas-là, il lui est permis d'avoir recours au tayammum. Également, la personne qui n'est pas malade, mais qui craint de tomber malade. Si par exemple, elle se retrouve dans un endroit où il fait très froid, et qu'elle ne dispose pas de quoi faire chauffer l'eau, et qu'elle pense que si elle fait ses ablutions ou le lavage avec de l'eau froide, alors elle tombera malade. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à avoir recours au tayammum. Mais si l'on dispose de quoi faire chauffer l'eau et se mettre à l'abri du froid, alors dans ce cas-là, on se purifiera avec de l'eau. Donc pour résumer, on dira qu'il y a cinq situations dans lesquelles on aura recours au tayammum. La première situation, c'est en l'absence d'eau. S'il n'y a pas d'eau, que l'on en a cherché et que l'on n'en a pas trouvé. Que la personne soit résidente ou en voyage. À partir du moment où il n'y a pas d'eau et que l'on ne peut pas en trouver, alors il est permis d'avoir recours au tayammum. La deuxième situation, c'est que la personne, elle a de l'eau, mais elle a besoin de cette eau pour la boire ou pour cuisiner. Et si elle se purifie avec cette eau, alors elle n'aura plus de quoi boire ni de quoi cuisiner. Et elle craint pour sa personne, ou pour les personnes qui sont dans sa compagnie. Et les gens de science ont dit, ou même elle craint pour son bétail, par exemple. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à avoir recours au tayammum si l'eau est insuffisante pour se purifier. La troisième situation, c'est que la personne craint une nuisance si elle utilise l'eau sur son corps. Elle craint de tomber malade ou elle craint de retarder la guérison. La quatrième situation, c'est que la personne ne puisse pas utiliser l'eau, bien qu'elle soit présente, en raison d'une maladie qui l'empêche de se déplacer ou qui l'empêche de bouger, et qu'il n'y a personne en sa compagnie pour lui faire les ablutions, et qu'il craint que le temps de la prière sorte, comme ça peut être le cas d'un malade à l'hôpital. Il ne peut pas se rendre à la salle de bain, il est alité, et il n'y a personne avec lui pour lui faire les ablutions. Et il craint que le temps de la prière sorte, alors dans ce cas-là, étant donné qu'il ne peut pas bouger, il lui est permis d'avoir recours au tayammum. Enfin, la cinquième situation, c'est lorsque l'on craint le froid, en raison de l'utilisation de l'eau, et que l'on n'a pas de quoi la réchauffer. Dans ce cas-là, il est permis de faire le tayammum et de prier, et ce d'après la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « Wa la taqtulu anfusakum » et ne tuez pas vos propres personnes. Ainsi que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ne vous causez pas de tort et n'en causez pas autrui. » Donc dans ces cas-là, la personne aura recours au tayammum et pourra prier. Et les gens de science ont dit, s'il a de l'eau, mais que celle-ci n'est pas suffisante pour se purifier entièrement, alors dans ce cas-là, il utilisera ce qu'il possède comme eau. Puis après cela, il fera le tayammum pour le reste des membres restants. Et se mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ et craignez Allah autant que vous pouvez. Et si la personne a une blessure, et qu'il ne lui est pas possible de laver sa blessure, ni de l'effleurer avec de l'eau. Alors, certains parmi les gens de science ont dit qu'il fait le tayammum pour cette partie de son corps qu'il ne peut pas purifier, et il lave le restant de son corps. Mais si sa blessure est recouverte d'un pansement, par exemple, ou d'un plâtre, alors dans ce cas-là, il fera le mash dessus lors de ses ablutions, comme on l'a vu lors du chapitre sur l'effleurement, et il n'aura pas besoin d'avoir recours au tayammum. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, dit « Fayakoum al-turab maqam al-ma » et la terre prend la place de l'eau, comme on a dit que ce soit pour l'état d'impureté mineure ou pour l'état d'impureté majeure. Et ce qui est visé par la terre, c'est tout ce qui remonte à sa surface, c'est-à-dire tout ce que l'on trouve à la surface de la terre. Que ce soit de la terre, que cela soit du sable, que cela soit des cailloux ou autre chose semblable. Il est permis d'avoir recours à tout cela pour le tayammum. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous donne la description du tayammum et il dit « Yanoui raf'a ma alayhi min al-ahdath » Il a l'intention de lever les états d'impureté dans lesquels il est. Et comme vous le voyez, le shir, rahimahullah ta'ala, a mis les états d'impureté au pluriel. Car, comme on a dit, le tayammum, il est permis d'y avoir recours pour l'état d'impureté mineure, tout comme pour l'état d'impureté majeure. Et l'intention, on a vu que c'est une condition pour l'ensemble des adorations. D'après la généralité du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun d'entre vous sera rétribué en fonction de son intention. » Donc, la personne, lorsqu'elle fait le tayammum, elle a l'intention de lever son état d'impureté, qu'il soit majeur ou mineur. Il dit « Thumma yaqul bismillah ». Ensuite, il dit « Bismillah ». Tu mentionnes donc le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, en analogie aux ablutions, car le tayammum remplace les ablutions, et comme le fait de dire « Bismillah » est légiféré pour les ablutions, il est alors aussi légiféré pour le tayammum. Ensuite, il dit « Rahimahullah »« Thumma yadrib at-turab biyadihi marratan wahida ». Ensuite, il tape ses mains sur la terre une seule fois. Comme il est venu dans le hadith de Ammar, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Il te suffisait de faire ainsi avec tes mains. » Puis il a tapé ses mains sur la terre une seule fois. Ensuite le shir rahimahullah ta'ala nous dit « Yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffai. » Il essuie ensuite avec celle-ci l'ensemble de son visage et de ses mains. Donc lorsque tu fais le tayammum, tu as l'intention de lever ton état d'impureté. Tu dis bismillah, tu tapes avec tes deux mains sur le sol. Après cela, s'il y a de la terre sur tes mains, il t'est permis de souffler comme cela est venu dans certains hadiths. Ensuite, tu essuies ton visage avec tes mains. Après cela, avec la paume de ta main gauche, tu essuies le dessus de ta main droite. Et avec la paume de ta main droite, tu essuies le dessus de ta main gauche. Une fois que tu as fait cela, le tayammum est terminé. Et lorsqu'on dit qu'on essuie les mains, c'est-à-dire jusqu'au poignet. Une fois cela fait, tu es purifié et t'es permis de prier. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَإِنْ ضَرَبَ مَرَّتَيْنَ فَلَا بَأْسَ. Et s'il tape, c'est-à-dire le sol, la terre, à deux reprises, alors il n'y a pas de mal. Et ce car il est rapporté d'Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu que le tayammum se faisait en tapant le sol à deux reprises, une fois pour le visage et une fois pour les mains. Mais ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'on ne tape le sol qu'une fois. Donc, si la personne le fait deux fois, il n'y a pas de gêne, mais le mieux et le plus proche de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est de le faire une seule fois. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné une partie du verset 6 de surat al-Ma'ida nous prouvant la légitimité du tayammum. Et il a dit, قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Et ceci est un point très important. La terre à laquelle on a recours pour le tayammum, il est indispensable qu'elle soit pure. Mais si celle-ci est impure, alors on ne pourra pas faire le tayammum avec celle-ci. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous sous bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et le tayammum, en effet, cela fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a imposé aucune gêne en religion. Si tu n'as pas d'eau, il y a une solution, tu fais le tayammum. Si tu es malade, que tu ne peux pas utiliser l'eau, il t'est permis de faire le tayammum. Et ceci est une grande facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala a dit, وعن جابر, et d'après جابر, radiallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البروفات صلى الله عليه وسلم هذه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Cinq choses m'ont été accordées. Aucun prophète avant moi ne se les ait vues accordées. Donc ces cinq choses que le prophète صلى الله عليه وسلم va mentionner, elles font partie de ses spécificités. Il dit نصرت بالرعب مسيرة الشهر. J'ai été secouru par la terreur à une distance d'un mois. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était craint par ses ennemis lorsqu'il se trouvait à une distance d'un mois de leur position. C'est-à-dire la distance parcourue en un mois à dos de chameau comme cela se faisait à son époque sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit wa ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura. Et la terre a été faite pour moi comme un lieu de prière et un moyen de purification. Un lieu de prière et un moyen de purification, c'est-à-dire que tu peux prier où que tu te trouves, et il t'est possible en plus de cela de trouver un moyen de te purifier. Il dit « فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدَرَكَتْهُ الصَّلَةَ فَلْيُصَلِّي. » Donc, si un homme parmi vous atteint le temps de prière alors qu'il prie, où qu'il soit, il lui est possible de se purifier et il lui est possible de prier. Alors que dans les communautés qui nous ont précédés, il aurait été obligatoire de ne se purifier qu'avec de l'eau. Alors que pour nous, ceci a été facilité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré le tayammum. Également, on peut prier en tout endroit, mis à part certaines exceptions qui sont prouvées par les textes. Alors que les gens des communautés précédentes ne pouvaient prier que dans leur lieu de culte. Ceci est donc une facilité. Ensuite, il dit wa uhillat li al-ghanaim. Et les butins m'ont été permis, c'est-à-dire ce qui est récupéré des mécréants lors des batailles. Wa lam tahill li ahadin qabli. Elle n'était permise à personne avant moi. Wa u'titu ash-shafa'a. Et il m'a été accordé l'intercession. Comme on l'a vu, pour ceux qui suivent avec nous les cours de Kitab al-Tawhid, dans le cours d'hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été accordé le droit d'intercéder au jour de la résurrection afin que le jugement commence. Et ceci fait partie de ses spécificités. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّ. Et le prophète, c'est-à-dire parmi les prophètes avant moi, était envoyé à son peuple particulièrement, alors que j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est destiné à l'ensemble des deux pesants, les djinns et les hommes, et ce jusqu'au jour de la résurrection, car il n'y a plus de prophète après lui. Avant lui, les prophètes étaient envoyés spécifiquement à leur peuple. Les enfants d'Israël, par exemple, avaient leur prophète. Tandis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble de l'univers. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. Et l'auteur l'a mentionné en raison de la mention de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la terre a été faite pour lui, un lieu de prière et un moyen de se purifier. Le cheikh rahimahullah ta'ala a ici terminé avec les questions liées au tayammum. Mais il reste certains points à voir, et notamment en ce qui concerne ce qui annule le tayammum. Quelles sont les choses qui rendent le tayammum invalide? La réponse est que si le tayammum a été fait pour lever l'état d'impureté mineure, alors il sera annulé par les choses annulant les ablutions, comme on l'a vu dans un cours précédent. Et s'il a été fait pour lever l'état d'impureté majeure, alors il sera annulé par ce qui rend obligatoire le rousl, comme la janaba, les menstrues ou les logis. Et ce car, comme on a dit, le tayammum il remplace la purification avec l'eau, donc il a le même jugement que celle-ci, que ce soit en ce qui concerne les ablutions ou le rousl. Et également s'ajoute à cela le fait que le tayammum s'annule en la présence d'eau si la personne y a eu recours en raison de l'absence d'eau. C'est-à-dire que si tu as fait le tayammum car il n'y avait pas d'eau, une fois que l'eau est présente, alors le tayammum est annulé. Il t'est obligatoire de te purifier à ce moment-là avec de l'eau. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Abi Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La terre pure est une purification pour le musulman, même s'il ne trouve pas d'eau durant 10 années, et s'il trouve de l'eau, alors qu'il la fasse toucher sa peau. » C'est-à-dire que, une fois que tu as trouvé de l'eau, le tayammum est annulé. Et des gens de science ont dit même si la personne est en prière, c'est-à-dire que tu as fait le tayammum car il n'y avait pas d'eau, tu commences à prier et une personne arrive avec de l'eau. Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Gens de science ont dit à ce moment-là, tu interromps ta prière. Tu te purifies avec de l'eau et tu recommences ta prière. Car la raison qui te permettait de faire le tayammum, elle a maintenant disparu, elle n'est plus présente. Il t'est donc obligatoire de te purifier avec de l'eau. Et ils ont dit également que le tayammum est annulé si l'excuse de la personne est terminée. Par exemple, si une personne faisait le tayammum en raison d'une maladie, alors, une fois guérie, il ne lui est plus permis de faire le tayammum. Elle devra faire les ablutions avec de l'eau. De la même manière, si une personne avait recours au tayammum car elle n'avait rien pour chauffer l'eau, à supposer qu'elle soit dans un endroit où elle chauffe l'eau en ayant recours à l'électricité et qu'il n'y avait pas d'électricité. Une fois l'électricité revenue alors, il lui est obligatoire de faire les ablutions pour prier, car elle peut maintenant chauffer l'eau. Et ainsi de suite. Une fois que l'excuse est terminée, alors il est obligatoire de se purifier avec de l'eau. Et concernant celui qui a fait une prière avec le tayammum, car il ne trouvait pas d'eau. Puis une fois la prière terminée, il trouve de l'eau. Celui-ci doit-il recommencer sa prière ou non? Les gens de science ont dit qu'il ne doit pas la recommencer, car il l'a fait de manière valide et légiférée. Il ne trouvait pas d'eau, il a fait le tayammum, il a accompli sa prière, et il ne pensait pas pouvoir trouver de l'eau après celle-ci. Donc même s'il trouve de l'eau après, il ne lui est pas nécessaire de recommencer cette prière. Toutefois, s'il souhaite prier une autre prière, il devra se purifier avec de l'eau. La preuve à ce sujet est un hadith rapporté par l'imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, concernant le récit de deux hommes qui avaient fait le tayammum, puis avaient prié. Après cela, après leur prière, ils ont trouvé de l'eau. Et le temps de prière n'était pas encore sorti. Ils étaient encore dans le temps de cette prière qu'ils venaient de faire. Alors l'un d'eux n'a pas refait la prière. alors que le second a fait ses ablutions avec l'eau et il a recommencé cette prière. Par la suite, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont informé de cela, l'ont informé de ce qu'ils avaient fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'avait pas refait la prière, Asabta sunna. Tu as atteint la sunna, c'est-à-dire tu as mis en pratique la sunna, tu as mis en pratique ce qui est légiféré. Tu as fait ta prière de manière valide, tu n'avais pas à la refaire. Et il a dit à l'autre, tu as la récompense à deux reprises. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas blâmé, car il a fait un effort de réflexion, il pensait bien faire, et il lui a dit, tu seras récompensé deux fois, c'est-à-dire pour ces deux prières. Donc, si tu fais une prière, en ayant fait le tayammum car tu ne trouvais pas d'eau, puis que par la suite tu trouves de l'eau, même si tu es encore dans le temps de cette prière, il n'est pas légiféré de la refaire. Et certains pourraient dire, oui mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au second qu'il a la récompense à deux reprises. Donc moi, je veux la récompense à deux reprises, je vais donc faire les ablutions avec l'eau et refaire cette prière. La réponse est que si tu as connaissance de ce hadith, tu as connaissance de ce qui est légiféré. Tu as connaissance de la sunna. Donc, tu ne pourras pas avoir la récompense deux fois. Au contraire, tu auras ainsi innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu auras fait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné. Alors que cet homme qui a fait ses ablutions et a refait sa prière dans le hadith, celui-ci il ne connaissait pas la sunna à ce sujet. Il ne savait pas ce qui était légiféré. Il a donc fait un effort de réflexion et c'est pour cela qu'il a été récompensé. Et le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit qu'on tire de ce récit un bénéfice très important. Et il dit que ce hadith nous prouve que le fait de te conformer à la sunna est plus méritoire que l'œuvre en quantité plus grande. C'est-à-dire que l'œuvre en quantité plus grande mais non conforme à la sunna. Regardez ici dans ce hadith, il est plus méritoire de ne pas refaire la prière. Car c'est cela la sunna. Quant à celui qui l'a refait alors qu'il a connaissance de ce hadith, il aura fait deux prières, mais il se sera opposé à la sunna. De la même manière, avant la prière du Fajr, une fois le temps de la prière du Fajr entré, avant de faire la prière obligatoire, il est légiféré de faire deux unités de prière surérogatoires. Mais il n'est pas légiféré de multiplier les prières surérogatoires à ce moment-là. Car ceci n'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Mais il ne faisait que deux unités à ce moment-là. Donc celui qui fait plusieurs prières à ce moment-là, il a moins de mérite que celui qui se contente de faire simplement deux unités. Car c'est cela la sunna. Également la sunna, c'est que ces deux unités, il faut les faire de manière courte. Comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'allongeait pas ces deux unités de prière, mais il les faisait de manière courte. Il récitait dedans surat al-kafirun et surat al-ikhlas. Donc celui qui va accomplir cette prière en la prolongeant, en récitant de longues surates par exemple, celui-ci ne sera pas conformé à la sunna. Il a donc moins de mérite que celui qui a fait une prière courte. Quoi qu'il en soit, ceci ne sont que des exemples. Et la règle générale est que le fait de te conformer à la sunna dans ton œuvre est meilleur que d'accomplir cette œuvre de manière plus abondante ou plus longue, mais de manière contraire à la sunna. Et ceci était une petite parenthèse en raison de ce bénéfice que l'on tire de ce hadith. Pour terminer, il y a une question qui se pose ici. Et que doit faire la personne qui se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'eau et également il n'y a pas de terre ou ce qui est semblable pour faire le tayammum? Ou alors il est dans une situation où il ne peut toucher ni l'eau ni la terre, où il n'y a pas accès. Alors que doit-il faire? La réponse est que dans cette situation, il prie dans son état, même s'il est en état d'impureté, sans ablution et sans tayammum, et ce s'il craint que le temps de la prière sorte. En raison de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah ne cherche pas une âme plus que sa capacité. Et il dit subhanahu wa ta'ala « Fattakullaha mastata'tum » Craignez Allah autant que vous pouvez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque je vous ordonne une chose, faites-la autant que vous pouvez. » Donc la personne dans cette situation, elle prie dans son état, même si elle ne peut pas faire les ablutions, ni le tayammum. Et bien sûr, ceci est un cas exceptionnel. On a donc terminé avec les règles concernant le tayammum et on verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, ce qui est interdit lorsque l'on est en état d'impureté, mineur ou majeur, ainsi que quelques règles liées aux menstrues et aux lochis. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.